Marc 4, 35, 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord », après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait.
Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ça, ce chapitre est important. Il est dans trois évangiles. Il y a Marc, il y a Luc, et puis il y a Matthieu. Donc c'est que le Seigneur veut nous en parler. Il nous en parle souvent, puis on connaît tellement ces passages. Alors au verset 35, l'ordre de Jésus qu'il va leur donner, c'est, il leur dit, passons sur l'autre bord. Donc c'est son ordre, ça veut dire que c'est sa volonté, donc c'est le voyage qui est proposé par Dieu comme la volonté de Dieu. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de question à se poser sur l'initiative du voyage. Elle est du Seigneur, puisque c'est lui qui dit de monter dans la barque. Et on doit pouvoir y monter avec confiance, puisque, bien sûr, les disciples connaissent le Seigneur. Et ils l'ont vu guérir des malades, ils l'ont vu chasser des démons, ils l'ont vu ressusciter des morts. Ils savent qu'il a toute la puissance. Ça, ils l'ont vu. Et maintenant, voilà une occasion dans cette barque. Et quoi qu'il arrive, vu ce qu'ils ont vu de lui, c'est le cas de le dire, ils auront confiance parce qu'ils ont la connaissance de ce qu'il est capable de faire et qu'il fait des miracles pour ceux qui se confient en lui. Voilà, c'est donc leur état d'esprit, on peut le concevoir évidemment, et ce voyage, théoriquement, ne devrait pas poser de problème. Et alors, le Seigneur a renvoyé la foule, et qu'ils l'emmenèrent dans la barque, et puis il y avait d'autres barques avec lui, il n'est pas seul. Et alors, bien sûr, il s'est passé ce moment où tout se passe bien, il y a les autres barques, il y a un moment où il n'y a pas de questions à se poser, la mer est calme, il n'y a pas trop de vent, comme dans nos vies des fois. Et puis au verset 37, on vient de le relire, mais il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ça a été vraiment d'une rapidité extraordinaire. Il n'est pas dit le vent a forci, la mer a commencé à monter. Il s'est élevé un grand tourbillon, c'est un grand tourbillon, et tout à coup les flots se jettent dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Si on se met à la place des disciples dans cette barque, on voit arriver des tourbillons énormes, des grandes vagues, et la barque se remplit déjà, elle se remplit vite. Et ses disciples sont dans la barque. Alors là, tout change. Tout change, évidemment, il y a la stupeur. Parce que c'est imprévu. Il y a la violence, et pour les disciples, il y a la peur et l'angoisse. Évidemment, ça, ils vont le montrer. Le calme des éléments est rompu, évidemment, avec la tempête, mais le calme dans le cœur des disciples est aussi rompu. Et cependant, le Seigneur a commandé le voyage. Comment se fait-il que ces choses-là arrivent aussi brutales, aussi dangereuses, risque de mort? Il est donc quelque chose qui se passe, et pourquoi cette épreuve dans nos vies? Pourquoi ces épreuves pour l'un, pour l'autre? Alors que tout est calme, c'est bien sûr la question qui nous est posée à nous. Évidemment, c'est fait pour que ça nous enseigne. Hein. Et pourquoi cette paix qui régnait pendant tant de temps, bien, tout à coup elle est perdue parce qu'arrive la tempête, les vagues. Et là, il y a urgence parce qu'ils sont perdus. Et on fait le parallèle, bien sûr, pour nous aussi. Quand il y a urgence dans une épreuve, quand la barque se remplit, quand il y a le vent, nous nous sentons aussi perdus. Et bien sûr, il n'y a aucun secours possible. Le Seigneur m'aurait-il menti dans la route de ma vie? Et cette épreuve, est-ce ne peut pas être dans son plan, puisque jusqu'à présent, j'ai été dans la paix de Dieu. Alors, c'est la question que disent ses disciples, puisque le sonnier donne un contraste, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Le contraste est bien sûr évident, flagrant, mais Dieu le veut comme ça, pour pouvoir après pouvoir nous parler. Ils le réveillèrent, il dormait, puisqu'il le réveille, puis ils lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Ça, c'est un reproche clair. C'est pas dire, Seigneur, regarde, il y a une tempête. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Ils ne comprennent pas. Lui qui montrait toujours qu'il était celui qui faisait le bien, celui qui guérissait, celui qui consolait, le voilà qu'il laisse périr ses disciples, puisqu'ils vont périr, c'est sûr. Seigneur, ne t'en inquiètes-tu pas ? Alors, c'est quelque chose qui va changer un petit peu la façon de voir qu'ils avaient. Parce que lui, dans cette même tempête, qu'il ressentait certainement, parce que les vagues, elles devaient être fortes, le vent, il devait être fort, l'eau, il l'avait peut-être sur les pieds, eh bien, malgré cela, le Seigneur dort. Et il a dans son cœur une paix parfaite. Puisque c'est un contraste, son attitude, qui lui permet de dormir sans se réveiller. Dans Proverbe 3, 24, il nous est dit, « Si tu te couches, tu seras sans crainte. » Ça, c'est pour notre sommeil à nous. « Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » C'est une promesse que Dieu nous fait, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tempête intérieure dans ton cœur, le vent ne rugira pas, et l'angoisse ne te prendra pas. C'est une promesse magnifique, celle-là. Absolument magnifique pour le sommeil. Quand on est souvent sujet à des troubles du sommeil dans notre entourage. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a des angoisses, parce qu'il y a des épreuves. Eh bien, le Seigneur veut quand même garder ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait, notre Seigneur Jésus ? Ben que là, il obéit à la parole de Dieu qui se confirme dans son sommeil qui est paisible. Il fait confiance à cette promesse. Et bien sûr qu'on voit là une différence fondamentale entre les disciples dans une angoisse terrible et qu'on comprend, qui est justifiée par la tempête, et la certitude de la mort imminente, ils le disent, ils vont être noyés, puisque la barque va couler. Différence fondamentale entre eux et le Fils de Dieu, qui pourtant a renoncé à ses attributs divins, puisqu'il nous dit dans Philippiens 2, 6, « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, ou comme un simple homme. » Donc sa condition n'est pas celle de celui qui avait la toute-puissance, il la montrera. Mais pour être un homme, il a abandonné sa puissance. Il a les mêmes pensées que nous, il a les mêmes douleurs et souffrances que nous, et même plus que nous. Et il a aussi en lui, en étant un homme, la possibilité de la crainte et de l'angoisse. C'est un homme, puisqu'il est venu le Fils de l'homme, mais c'est un homme qui nous a sauvés, il était donc comme nous. Dans son cœur, il y a la possibilité que vienne l'angoisse et la crainte. Mais il a une qualité nettement supérieure, évidemment, un esprit supérieur à ses disciples. Il fait une confiance absolue à son Père. Une confiance absolue. Ce qui lui permet de dormir dans la tempête. Et alors, cette confiance, elle est réelle et elle est agissante au moment de l'épreuve. Elle est dans la certitude, mais aussi elle est agissante. Alors, il fait ce reproche, au verset 40, « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» C'est ce reproche qui est... Il a deux termes, hein, ce reproche. Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Et ils sont dans cet état. Alors que lui, il est dans l'état de la parole de Dieu, puisqu'il vit de la parole de Dieu, de Philippiens 4, versets 6 à 7, qu'on connaît si bien, et dont on a tellement besoin. Ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, ça comprend aussi... Ne vous inquiétez pas de la tempête et de la barque qui se remplit et qui va vous noyer. Bon, on en parle, hein. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Gardera nos cœurs, toutes nos affections, mais aussi nos pensées. Car on sait que le diable nous attaque par nos pensées. Ces pensées qui vont rendre violentes, qui vont aller de tous les côtés et nous mettre dans l'angoisse. Et après, le Seigneur, ou du moins pendant, va montrer qu'il a toujours la même puissance pour ses disciples, puisqu'il le montre au verset 38. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et il eut un grand calme. Il montre donc à ses disciples que, tout en dormant, il avait la même puissance sur les éléments, terribles déchaînés qui entraînaient leur mort. Et le vent et la mer se calment. Alors, il se montre à ses disciples comme étant celui qui vivait dans la paix de Dieu, que rien ne pouvait troubler. Et il leur pose après, comme dans un miroir, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils le découvrent à cette occasion. Ils le connaissent, puisqu'ils marchent avec lui depuis des mois, ou un peu plus suivant la chronologie. Quel est donc celui-ci? Il découvre que tout lui obéit, même le vent, même la mer, dans la tempête. Tous les éléments sont très importants, évidemment, dans ce texte. Et puis, en ayant repris cela moi-même, alors, je veux partager quelque chose avec vous, peut-être vous donnerez aussi, surtout, votre pensée. Dans les mêmes circonstances, aujourd'hui, je réagirai exactement comme les disciples. Je le sais. Je réagirai comme eux, avec la même angoisse, la même crainte de voir les vagues, de voir le vent et de voir la barque qui se remplit. J'aurai une peur panique de la mort imminente par le naufrage de la barque. Et je crierai au Seigneur, pourquoi ne t'inquiètes-tu pas de ce que je péris? Ce ne serait pas formulé comme ça, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi. Je ne le dirai pas avec confiance, ce que Dieu voudra plus tard, mais avec crainte, au secours. Le Seigneur veut qu'on sache lui dire au secours. C'est bien vrai. Alors, je dirais au Seigneur, pourquoi ne t'inquiètes-tu pas de ces épreuves dans ma vie qui durent? C'est ça la tempête aussi. Ce n'est pas forcément sur un lac avec du vent et des grandes vagues. Ça veut dire la tempête dans mon cœur. Quand il y a une épreuve qui est, et nous en avons tous eu, nous aurons peut-être encore. Mais pourquoi, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de cette maladie dangereuse? Et pourquoi ne t'inquiètes-tu pas des craintes secrètes qui sont dans mon cœur? En fait, cette barque, cette tempête, elle représente notre cœur dans toutes les circonstances difficiles. Et dans toutes ces circonstances difficiles, cette barque avec la tempête, c'est magnifique ces images, le Seigneur Jésus est là. Il est dans la barque. Il semble dormir, et il dort parce que c'est un homme, il a besoin de sommeil, mais il veille. Et au moment voulu, il peut dire au vent, tais-toi. Puis à la mer, calme-toi. Et puis, ceci nous montre donc, on l'a dit, la différence de pensée et de cœur dans toutes les circonstances de notre vie entre le Seigneur, qui reçoit la volonté de son Père paisiblement et qui garde la paix. Vous savez, on reprend ce verset d'Ésaïe 26,3, à celui qui est ferme dans ses sentiments ou dans ses pensées, celui qui est ferme dans ses sentiments ou ses pensées, tu assures la paix. Pour une simple raison, la paix, parce qu'il se confie en toi. Voilà ce qui assure la paix. Pas les éléments qui se déchaînent. La paix, parce que mon cœur se confie en lui. Et dans cet épisode, donc, on voit qu'il y a une grande différence hein, dans la communion d'esprit entre le Seigneur qui a décidé de faire confiance à Dieu et les disciples qui créent à lui pour le prochain de ne pas s'inquiéter d'eux, sans voir que c'est en fait le chemin qui est là à suivre. Et j'ai beaucoup réfléchi, s'il y avait la même circonstance, peut-être dans l'état actuel, j'aurais la même angoisse que les disciples. Je ne sais pas comment vous, mais je vis comment je suis. Et je dirais, Seigneur, au secours, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi cette épreuve? Je vais mourir. Et ceci, après 50 ans de vie chrétienne. C'est ça aussi qui m'a fait réfléchir. Ça veut dire que le Seigneur veut nous amener dans la paix parfaite, complète, tout le temps, dans toutes les circonstances. C'est ce qui nous est dit dans Philippiens 4:6, que l'on connaît. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites confiance au Seigneur qui gardera votre cœur et vos pensées dans la paix. Et puis, il y a surtout Ésaïe 41:10 qui nous dit ceci. On va le lire, hein, Ésaïe 41:10. Nous lisons ces versets, nous y croyons, bien évidemment. Et puis, le Seigneur va permettre des moments dans nos vies où nous devrons en vivre pour qu'ils soient réels. Ésaïe 40, verset 10, « Ne crains rien et je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et puis, aussi dans Hébreux 12, on va prendre Hébreux 12, qui nous montre le chemin qu'il veut nous donner pour pouvoir rester toujours dans sa paix. Hébreux 12, on lira les deux premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nos regards fixés sur lui, toujours pour qu'il puisse mettre en nous, par le Saint-Esprit, la foi qui va ne pas craindre, et c'est celui qui va la susciter et la faire grandir. Alors, voilà ce que j'ai eu dans mes réflexions. Le Seigneur veut que l'on puisse réaliser, que je puisse réaliser, par sa grâce, par le Saint-Esprit, dans ma vie, dans mon cœur, dans les circonstances qu'il permet, la paix parfaite. La paix parfaite. Et je ne l'ai pas. Alors je me dis, il me reste quelques années à vivre. Enfin, moi, j'ai failli plus en avoir beaucoup, mais bon, il m'a fait un sursis. Je crois qu'il veut que nous puissions arriver, dans les années qui restent, à avoir cette même paix qu'il a en lui, de dormir dans la barque quand il y a la tempête. Alors, je voudrais vous demander votre avis. Qu'en pensez-vous? Puisqu'il nous parle de ça. Moi, j'y suis encore pas arrivé. Des fois, bien sûr que des circonstances, on y arrive, mais la réflexion est profonde. Il veut nous amener plus loin. Considérer, comme on le dit souvent, qu'il permet, dans nos vies, les circonstances, tout ce qui va concourir à notre bien. Il nous donne des versets qui sont des références. Ésaïe 41:10, Hébreux 12:1. Alors si je n'y arrive pas, je suis coupable. Ce n'est pas une culpabilité dont le Seigneur m'accuse, mais je suis responsable de ne pas lui faire confiance. Je parle pour moi. Et je voudrais que ça ne dure plus, puisque les jours avancent. Qu'on puisse être semblable à lui dans nos pensées, nos sentiments, puisque c'est ce qu'il veut. Voilà. Eh bien écoutez, qu'en pensez-vous? On peut le partager. C'est tellement important. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Qu'en pensez-vous aussi pour vous, peut-être? Peut-être c'est plus facile pour les uns les autres. Pour moi, ça ne l'est pas. Puis Dieu veut que ça le soit. Mais s'il veut que ça le soit, il permet que ça le soit. Si moi, je vais y faire confiance. Mais on peut se mettre assis, puis on en parlera à ce moment-là. On continuera par la prière. J'ai pensé en parler avec vous, parce que c'est certainement, dans nos vies, la chose la plus importante.